Bon, ça c'est notre dernier dimanche avec vous avant de déménager, mais bon, je compte, si Dieu permet, hein, on va passer des dimanches avec vous après. Hein. C'est pas, on ne déménage pas aux États-Unis, donc on quitte pas la France. C'est pas comme ça. Je vous invite à trouver Actes chapitre 20. Dans vos Bibles. Et nous allons lire quelques versets ensemble. Mais j'aime bien comment Laurent a dit, ça c'est la suite, bon, c'est une continuation de notre louange. La prédication n'est pas que l'enseignement, c'est ce qu'on fait pour louer le Seigneur. Parce qu'on dit au Seigneur, vos paroles sont grandes, elles sont merveilleuses, elles sont importantes, et nous voulons les écouter parce que c'est toi qui nous parles. Et aussi, notre réponse à la prédication, c'est toujours de la louange. Si on répond d'une manière juste à ce qui se trouve dans le texte. Et donc, j'apprécie profondément l'opportunité maintenant de vous partager, de partager avec vous quelques pensées hein, qui sont incitées par notre départ. Donc, on va lire ensemble les versets 25. Jusqu'au 32, verset 32, ensemble. Et Paul, il se trouve avec les anciens d'Éphèse. Il est en route pour Rome, Jérusalem, et après, à la fin, Rome. Et donc, il sait maintenant qu'il va être jugé. Bon, il va être devant le tribunal, et il voulait parler avec les pasteurs, les anciens. Il dit, « Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bon, bien que je garde l'espérance que nous vous verrons à nouveau dans l'avenir bon, assez proche, je ne pouvais pas résister de voir un parallèle entre notre situation et la situation de Paul en Acte 20 où il parle aux anciens des églises à Éphèse. Et même si nos situations ne sont pas exactement pareilles. Ah bon, je ne suis pas un apôtre et vous n'êtes pas tous des pasteurs. Les paroles du verset 32 font écho dans mon cœur. Bon, je veux pour vous tout ce que Paul a dit aux anciens. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bon, nous pouvons noter trois éléments dans ce verset ensemble. D'accord. On voit une action, Paul les recommande à Dieu. Nous voyons ainsi un résultat désiré. Il veut que Dieu les édifie et qu'il leur donne l'héritage. Et nous voyons un moyen spécifique. Dieu agit par la parole de sa grâce. D'accord? Trois choses. Une action, un résultat désiré et un moyen spécifique et déterminé. Nous allons considérer d'abord l'avertissement concernant les faux docteurs. D'accord? On va arriver aux faux docteurs à la fin, mais on commence par l'action de Paul. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous recommande. Il recommande les anciens à Dieu. Mais cela veut dire quoi exactement? Le verbe traduit « recommander » signifie en grec « mettre devant » ou « présenter », comme en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 27. « Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » C'est-à-dire, si vous êtes l'hôte, vous avez des invités, ils sont à table, vous les présentez la nourriture, n'est-ce pas? Le repas, ça c'est le mot recommandé. Dans ce contexte, il est clair que Paul ne fait pas référence à une action physique, comme s'il les mettait physiquement devant Dieu, c'est plutôt l'idée de les confier. D'accord? Ça c'est l'idée, confier à la protection et aux soins de Dieu. Et nous pouvons donc résumer cette action comme une prière offerte au Père pour la protection des anciens et à travers les anciens des églises. D'accord? Ça, c'est l'action. C'est une prière qui confie les anciens au Père. Pourquoi? Parce que quand on prie parce qu'on veut recevoir, n'est-ce pas? On veut que Dieu agisse. Donc, quel est le résultat désiré? Il y a deux. Dans ce passage, qu'est-ce que Paul veut recevoir du Père? Le verset 32 nous donne deux résultats désirés. L'édification des anciens et des églises et de le salut éternel des saints. Ça, c'est son prière. Le verbe « édifier », bon, ce n'est pas un mot que j'utilise journellement, parle de la construction d'un bâtiment. C'est tout. Et dans ce contexte, Paul prie que Dieu construise les anciens et les saints. Et cela veut dire quoi exactement? Paul prie que Dieu les rende plus stables, plus fermes et plus inébranlables. Comme un bâtiment devient de plus en plus fort et stable lorsque sa construction avance, un chrétien devient de plus en plus ferme et inébranlable grâce à la maturité spirituelle. Donc, quand je faisais ma formation théologique, je travaillais tous les étés et pendant l'année, et j'ai travaillé une fois pour un maçon. Et on a construit des bâtiments, des grands bâtiments comme le boulanger, le Décathlon, les trucs comme ça. Et c'était intéressant, il fallait faire beaucoup de choses pour assurer que le bâtiment est stable. Et au début, ce n'était pas très stable. Il fallait faire les liens entre tous les murs, il fallait utiliser beaucoup de choses pour assurer leur stabilité, la stabilité du bâtiment. C'est la même chose pour nous. Une vie n'est pas stable si elle n'est pas bien ancré en Dieu. Et ça, c'est sa prière. Et deuxièmement, Paul a envie que les anciens, avec les saints, reçoivent l'héritage. Il veut qu'ils reçoivent l'héritage. Il est clair dans ce contexte que Paul parle de quelque chose qui arrive dans l'avenir et qui est donné à tous ceux qui sont mis à part. Ça, c'est l'idée de sanctifier. Tous ceux qui sont mis à part pour Dieu en Christ. Paul fait référence à cet héritage en Colossiens chapitre 3, les versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, qu'un pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il parle aux serviteurs, des esclaves. « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Il a cet aspect futur dans son esprit. L'idée se trouve aussi en Éphésiens chapitre 1, les versets 13 à 14. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Il parle ici du Saint-Esprit, qu'il est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On n'a pas besoin d'un gage pour quelque chose qui est présent. On a un gage pour l'avenir, n'est-ce pas? Donc, on voit que l'héritage, dans ce contexte aussi, parle de ce qui est futur. L'héritage dont Paul parle, c'est l'accomplissement total du salut. Ce qu'on a déjà vu ce matin, la glorification. On attend la glorification. C'est pour ça que Paul peut dire, nous sommes plus proches aujourd'hui au salut qu'avant. On est sauvés, mais on attend le salut aussi. Donc, il y a cet aspect, cette tension présent et futur. Bon, pour résumer, nous voyons une action qui cherche des résultats spécifiques. Paul les confie à Dieu parce qu'il veut que Dieu les rende stables, forts et inébranlables. Il veut aussi que Dieu leur donne l'héritage réservé aux saints. Et troisièmement, Paul fait référence à un moyen spécifique. Comment Dieu accomplit ces deux choses? Comment Dieu fortifie, édifie les saints? Comment Dieu les donne l'héritage? Est-ce qu'il fait d'une manière mystique? Il faut attendre une expérience, un événement. Regardez avec moi ce que dit le verset. Je vous recommande à Dieu et à quoi? À la parole de sa grâce. Est-ce que ça, c'est un peu bizarre pour vous? Est-ce que vous avez jamais présenté quelqu'un aux paroles de quelqu'un d'autre? Quand mes parents sont venus, j'ai jamais dit à mes parents, je veux vous présenter aux paroles d'Ébie. C'est un peu bizarre. On présente une personne à une autre personne. Mais je pense que ce qu'il veut dire ici, et c'est un peu spécial, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas diviser la parole de Dieu, ni Dieu de sa parole. Ils vont ensemble. Si nous voulons ce matin être édifiés par Dieu, on ne peut pas être édifié sans sa parole. Il n'édifie pas sans sa parole. C'est la parole qu'il utilise pour nous rendre stables dans la foi. Et donc, il faut être concentré sur la parole. Et c'est la parole de sa grâce, pas la parole de sa loi. Ça, c'est pour nous la bonne nouvelle. Donc, on va considérer maintenant le moyen spécifique qui est la parole de sa grâce. Dieu travaille principalement à travers la parole de sa grâce. C'est quoi la parole de sa grâce? Bon, plutôt dans ce chapitre, acte 20, Paul a déjà parlé du ministère, c'est le verset 24, d'accord? Il a déjà parlé du ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Et ce ministère, c'est d'annoncer quelque chose. Ça parle déjà de ce qu'il dit, des paroles, un message. Et le message, c'est la bonne nouvelle, bon, on aime ça, de la grâce de Dieu. Et donc, quand il parle du fait qu'il a la parole de sa grâce, il parle du fait qu'il y a un message de grâce qui est de la bonne nouvelle pour nous et qui vient de Jésus le Seigneur. Bref, le moyen spécifique est le message prêché par Paul et les autres apôtres qui viennent de Jésus. Selon Paul, la parole de la grâce de Dieu est absolument nécessaire pour la maturité spirituelle. On ne peut pas être stable, ferme et inébranlable sans une relation intime avec la parole de sa grâce. Et Paul affirme aussi que Dieu utilise la parole de sa grâce pour nous donner l'héritage. Bon. Vous êtes venus ce matin parce que j'imagine vous êtes au moins religieux. Peut-être vous vous dites chrétien. Mais je sais aussi, pendant la vie, on a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Parfois on est ferme, parfois on est moins ferme. Parfois on est encouragé, parfois on est découragé dans la foi. Et parfois on regarde aux autres, peut-être les personnages historiques, peut-être les personnages qui sont ici avec nous, on se dit, si seulement je pouvais être comme eux, quelle est la clé? Vous avez la clé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et bon, si vous êtes venu ce matin et vous vous sentez faible dans la foi, nonchalant, peut-être pas trop de désir, c'est difficile, hein? Comment vous pouvez regagner ou obtenir un désir ardent? Ce n'est pas en prenant une pause de la Bible. Ah, j'ai besoin d'un peu de distance. Non, il faut aller plus loin dans la Bible. Il faut être là. Et ça n'arrive pas par la magie, hein? Parfois, ça s'exige beaucoup de persévérance, mais la parole est le moyen de la grâce de Dieu pour nous. Donc, mes frères et mes sœurs, je dois vous quitter. Hein? Et c'est un privilège de servir le Seigneur là-bas. Et on a de la joie, mais on a de la tristesse aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est être attaché, soyez attaché à la parole de la grâce de Dieu. Lisez la parole, mémorisez la parole, méditez la parole, parlez de la parole les uns les autres, parce que vous avez besoin de la parole pour être ferme, mature, inébranlable dans le Seigneur. Mais pourquoi? On parle beaucoup de la parole de Jésus, Jésus et sa parole, pourquoi? C'est nécessaire. On a déjà, on a vu en Romains, on ne peut pas croire si on n'entend pas. Il faut entendre. Et bien sûr, ça c'est nécessaire pour croire la première fois, mais comment vous pouvez continuer à croire si vous n'écoutez pas la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas le faire. Pierre écrit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tous vos cœurs, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Chapitre 1. Si vous êtes régénéré, né de nouveau, c'est grâce à la parole de Dieu. Et si sa parole est nécessaire pour commencer la vie, sa parole est nécessaire aussi pour continuer sa vie en nous. Et nous pouvons ensuite noter que Paul indique dans ce verset que la parole de sa grâce joue un rôle important après la régénération pour nous. Ce sont les paroles de sa grâce qui nourrissent et qui protègent la nouvelle vie en Christ. Comme Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si vous avez peur de s'éloigner de Dieu, de vous éloigner de Dieu, Dieu a déjà pourvu quelque chose pour vous. C'est sa parole. C'est la parole qui nous protège et qui nous garde sur le chemin droit. Donc, nous voyons donc dans ces trois versets trois éléments. Une action, un résultat désiré et un moyen spécifique pour les confier à Dieu pour qu'ils soient édifiés et qu'ils reçoivent l'héritage à travers la parole de sa grâce. Quelle situation a incité Paul à dire ces mots? Pourquoi a-t-il pris cette prière? Ce n'était pas tout à fait parce qu'il les quitte, parce qu'il sait ce qui va arriver, n'est-ce pas? Vous avez noté dans la lecture les versets 29 et 30, acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il utilise bien sûr des images. Il ne parle pas des brebis et des loups, mais des chrétiens et des faux docteurs. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul confie les anciens au Père pour sa protection à travers la parole de sa grâce parce qu'il savait que les faux docteurs arriveraient. Il les confie parce qu'il y a un danger. Et quel est le danger? Le danger, c'est la fausse doctrine, les faux enseignants. Et donc, maintenant, je veux prendre un peu de temps avec vous pour voir quelles sont les deux stratégies principales des faux docteurs qui se trouvent dans le Nouveau Testament. D'accord? Comment ils agissent, ces faux docteurs, ces loups qui arrivent? Qu'est-ce qu'ils font? On va regarder plusieurs passages ensemble. Il faut travailler avec moi, d'accord? Pour la dernière fois. 2 Pierre 3, 14 à 16. Bien sûr, on n'a pas besoin de regarder tout le contexte, chaque mot, mais on va prendre l'idée générale. Pierre dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon sa sagesse qui lui a été donnée. Donc, il parle des Écritures de Paul qui sont connues par ces chrétiens. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, il parle de plus d'une lettre, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, nous sommes d'accord avec lui, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Notez ce que Pierre dit au verset 16. Qu'est-ce que les personnes ignorantes et mal affermies font? Ils tordent le sens des Écritures. Ils n'essaient pas d'introduire une autre source. Ils n'amènent pas une autre Bible. Ils disent non, on va parler de vos Écritures, mais ils vont tordre le sens naturel, originel d'un passage. Il déforme les Écritures pour trouver un faux sens. Nous voyons ce que ces faux docteurs font dans le contexte. Ils introduisent sournoisement des sectes pernicieuses. Ça, c'est chapitre 2, les versets 1 de Pierre. D'accord? Ils vous exploitent au moyen de paroles trompeuses. Chapitre 2, le verset 3. Ils injurient les gloires dans leur arrogance. C'est-à-dire, ils parlent n'importe quelle manière aux anges, aux démons. Parce que quand même, Paul dit que nous allons juger des anges. Hein? Ils ont pris une partie de la vérité, mais ils ont tordu le sens. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Chapitre 2, le verset 19. Paul nous dit que nous ne sommes pas justifiés par la loi et en fait on est libérés, n'est-ce pas? On peut tordre le sens de ces paroles très facilement. Nous voyons ici que les faux docteurs ne sont pas venus avec un enseignement 100% faux. Ils tordent le sens de l'Écriture pour trouver l'erreur. C'est-à-dire, ils prennent 85% de vérité, ajoutent 15% de faussité pour arriver à une doctrine satanique. Il y a beaucoup de vérité, mais ils ajoutent la fausseté. On arrive à une doctrine satanique. Considérons avec moi les lettres de Jean, d'accord? 1 Jean et 2 Jean. En 1 Jean 4, les versets 1 et 3, nous lisons ces mots. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Regardez avec moi 2 Jean 7, où nous lisons ces mots. 2 Jean, le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antéchrist. Dans les premières années de l'Église, il n'y avait pas un grand débat par rapport à la divinité de Jésus. Ils ont lutté plutôt avec ceux qui ont nié l'humanité réelle de Jésus parce qu'ils ont adopté l'idée que tout ce qui est matériel est mauvais. Voyez-vous comment cette fausse doctrine est construite? Ils ont pris une vérité très biblique. Jésus est Dieu parmi nous. D'accord? Après, ils ont ajouté une partie de fausse philosophie, et voilà, on a un milkshake de fausse doctrine préparé par l'Antichrist. On met l'accent sur la divinité de Jésus-Christ, on nie l'humanité de Jésus-Christ, on arrive à une doctrine satanique. Nous prenons par exemple la lettre de Thessaloniciens, chapitre 2, chapitre 3. Rappelons-nous, on est en train de voir très rapidement deux stratégies différentes. D'accord? Stratégie. Hein? Les stratégies sont trouvées dans la Bible. Nous voyons cette stratégie en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 et 2, là, Paul écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, les faux docteurs prennent une vérité. Il y a un jour du Seigneur. Ils ajoutent une fausseté. Le jour du Seigneur était déjà là. Et ils arrivent à avoir un enseignement qui trouble l'Église et qui mène à la fainéantise. Chapitre 3. On ne doit pas travailler parce que le jour du Seigneur est venu. Où on peut voir comment dans le Nouveau Testament, on a Jésus plus quelque chose, hein? On aime Jésus, mais il faut ajouter quelque chose. Dans les lettres écrites aux églises en Galatie et à l'église à Colosse, nous voyons qu'une stratégie des faux docteurs est d'affirmer Christ plus quelque chose en plus pour avoir le salut. En Galates, les faux enseignants ajoutent la loi. C'est le même problème qu'on trouve discuté en Actes 15. Oui, Jésus, il faut croire, Jésus est le Messie, mais il faut être circoncis. Il faut se faire circoncis, il faut suivre la loi de Moïse. Non, la Bible dit non. Et on ne peut pas ajouter à Jésus. En Colossiens, ils ajoutent une connaissance plus profonde, plus philosophique et plus mystique. Et dans les deux cas, nous trouvons la même stratégie. Un part de vérité mélangé avec un part de fausseté produit une doctrine totalement fausse. Et rappelons-nous ce que Paul dit. Galates chapitre 1, il utilise les mots « sévère » et « dur » en Galates. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne peux pas citer en français, il dit quoi en Galates? Si c'est nous, si c'est les anges du ciel, annoncer un évangile s'écartant de celui qui nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, c'est fort. Ça nous dit que on ne peut pas dire, c'est pas grave. C'est une petite chose. Hein? Non, c'est grave parce qu'on change l'évangile de Jésus-Christ. Et ensuite, nous voyons 1 Corinthiens. Il y a beaucoup d'exemples en 1 Corinthiens. Chapitre 5, nous lisons que les Corinthiens toléraient le péché. Ils étaient en fait assez fiers de leur tolérance. Mais Paul dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ils n'ont pas compris l'enseignement de Paul qu'il faut juger ceux qui font partie de l'Église. C'est vrai que l'amour couvre beaucoup de fautes, mais trop d'accent sur cette vérité risque de tordre une autre vérité qui est également importante pour la vie d'une Église. On dit, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. L'amour couvre, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas mettre trop d'accent sur une chose et perdre une autre chose qui est aussi vraie. Chapitre 6, le verset 12 à 20, il semble que certains dans l'Église ont répété le slogan « Tout m'est permis » pour justifier leurs actions immorales. Mais Paul leur rappelle qu'une telle conclusion ne s'accorde pas avec la vérité. Ils sont les membres de Christ. Même si un chrétien n'est plus sous la loi, une partie de la vérité mélangée avec une fausseté, et on arrive dans le péché. Mais chapitre 7, nous lisons que certains couples mariés avaient décidé de s'abstenir d'une manière permanente des relations sexuelles. Nous ne savons pas exactement pourquoi ils l'ont fait, mais on peut déduire sans aller trop loin qu'ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que l'abstinence était préférable au niveau spirituel. C'est plus spirituel. Trop d'accent sur un aspect de la vie chrétienne a nié la validité d'un autre aspect de la vie chrétienne. Au chapitre 12 à 14, qu'est-ce qu'on trouve? Nous voyons que les Corinthiens ont mis trop d'accent sur les dons miraculeux. En fait, le fait qu'ils aient accordé trop d'importance aux dons miraculeux les a amenés dans l'erreur. Les dons de Dieu, les dons de l'Esprit sont bons, n'est-ce pas? Oui, il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Et soudainement, Paul nous dit, si vous avez tous les dons mais vous n'avez pas l'amour, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Donc, dans cette section, nous avons vu que les fausses doctrines sont les produits de deux stratégies. D'accord? D'abord, nous avons les faux docteurs qui nous pouvons appeler les cuisiniers sournois. Hein? Donc, ils prennent un peu de vérité, un peu de fausseté, et ils ont l'erreur. D'accord? Ce sont les cuisiniers sournois. Dans ce cas, on a les erreurs qui viennent d'un mélange de vérité et de fausseté. Le résultat est un plat qui empoisonne ceux qui consomment la doctrine. C'est grave. C'est grave. Ensuite, nous avons découvert les faux enseignants que nous pouvons appeler les illusionnistes. Hein? Vous savez ce qu'est un illusionniste? C'est quelqu'un qui directe notre attention ici pour qu'il puisse faire quelque chose ici. Hein? Vous avez vu dans la télé peut-être les tours de magie. C'est pas la magie, c'est les illusions. Ce genre de docteur n'ajoute pas des éléments externes pour introduire des erreurs. Ils accordent trop d'accent sur une partie de la vérité afin que leurs adhérents ignorent. Leurs adhérents ignorent ou même nient d'autres aspects de la vérité. C'est ce que je voulais dire ici. Je ne sais, sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un peu de vérité là-bas, mais on ne peut pas le voir. Vous savez qu'il y a des théologies aujourd'hui qui sont comme ça, et des églises qui sont comme ça. Ils mettent tout l'accent sur une seule vérité, et on perd le reste. On voit dans la Bible qu'on n'arrive jamais à produire des personnes, des chrétiens qui sont stables, qui sont matures, inébranlables. Donc, troisièmement, la mise en garde pour nos jours. D'accord? Les loups, est-ce qu'ils sont limités au premier siècle après Jésus-Christ? Qu'en pensez-vous? Non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des loups? Oui. Sommes-nous prêts? Sommes-nous attachés à la parole de Dieu pour nous diriger? Donc, ces stratégies ne sont pas confinées au passé. Je veux maintenant vous mettre en garde contre un danger croissant en France. Malheureusement, c'est une exportation des États-Unis. Donc, j'ai le droit, parce que je suis américain. C'est un danger subtil qui se sert des deux stratégies que nous avons vues dans le Nouveau Testament. C'est le danger de la théologie de la prospérité. D'accord? C'est quoi la théologie de la prospérité? Bon, je vais citer quelqu'un d'autre. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques en France. Et le Conseil a publié un document où il dénonce la théologie de la prospérité. Selon le CNEF, la théologie de la prospérité est un courant qui correspond aux aspirations matérialistes d'une frange du christianisme occidental, qui trouve enfin un langage décomplexé sur l'argent. Parmi les têtes pensantes contemporaines, la plupart sont des prédicateurs américains, mais ils ne sont pas tous des Américains. J'ai écouté vendredi et samedi beaucoup qui prêchent en français, qui se trouvent en France, qui se trouvent en Afrique. Effectivement, ils sont riches et célèbres. Ainsi, par exemple, les très médiatiques pasteur Joel Osteen, qui dirige la Lakewood Church à Houston, Texas, la plus grande méga-church aux États-Unis. L'étude du CNEF cite aussi Joyce Meyer, une prédicatrice extrêmement populaire en France, qui a fait fortune avec ses livres d'édification. S'inspirant de la pensée magique, ces stars apprennent à leurs fidèles de proclamer, souvent à haute voix, la victoire sur toute maladie. Ils les font prier pour la réussite tant désirée, conformément à ce qu'ils pensent être la volonté de Dieu. Le CNEF dit que cette théologie est une paganisation de la foi. Vous savez ce qu'est la paganisation? C'est pas bon. Hein? C'est un mélange de ce qui vient de Satan et du monde avec le christianisme. Selon Thierry Husset, c'est un théologien, cette théologie enseigne que Dieu nous sauve pour nous bénir matériellement. Certains en sont pratiquement à donner des ordres à Dieu. Ils inversent les rapports entre Dieu et l'homme et deviennent ainsi idolâtres. Parce que Dieu n'est plus Dieu. Ce genre de prédicateur dit souvent « Je déclare !» Je viens d'écouter plusieurs prédications. Je déclare, 2017, ça sera votre meilleure année. 2017, votre vie sera débloquée, mais faites attention, il ne vous déclare pas tout le conseil de Dieu. Il cite très rarement la Bible. Et quand il la cite, il prend 1-2 versets sans consulter le contexte, sans parler de ce qui était la signification avant pour arriver à la signification maintenant. Il dit seulement, je veux utiliser ces versets pour ce que je veux dire. Ça, ce n'est pas la prédication biblique. Bon, maintenant, vous dites, Michael, j'ai pensé que vous étiez plus gentil que ça. Pourquoi vous dénoncez publiquement ces hommes et ces femmes qui essaient d'encourager les gens dans la foi? Je les écoute ou lis et je trouve qu'ils disent des bonnes choses. D'accord, je suis content que vous me posiez cette question. Parce que je vous donnerai 4 raisons pour lesquelles nous devons rejeter l'enseignement de ce genre de prédicateurs. D'accord? Mais avant de le faire, je vous rappelle de ce que nous venons de voir dans la Bible. La plupart des faux enseignements étaient soit un mélange de vérité et de fausseté, soit une importance excessive accordée uniquement à une partie du conseil de Dieu, jusqu'au point où le reste est ignoré, même nié. Est-ce qu'on trouve ces deux stratégies ici dans notre pays de la France et dans les églises? Pourquoi rejeter? Pourquoi dénoncer ce genre de prédicateur comme Joel Osteen qui est bon, vraiment, il est beau, hein? Très agréable. Joyce Meyer qui est gentil, hein? Pourquoi? 4 raisons pour rejeter la théologie de la prospérité. D'abord, la théologie de la prospérité ignore l'enseignement du Nouveau Testament sur la souffrance. Ignore entièrement. Jésus nous enseigne, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Est-il possible que notre maître a passé sa vie en souffrance, mais pour nous, il ne faut pas avoir la souffrance? En Actes 14, 21, Paul fortifie les nouveaux chrétiens à Lystre, à Icône, à Antioche, en les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, quel encouragement pour les nouveaux chrétiens, mais c'est vrai. Paul dit en Romains chapitre 8, le verset 22-23, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps physique. On souffre physiquement avec la création à cause du péché. » Dans la lettre écrite aux Hébreux, le chapitre 11 encourage les chrétiens à suivre l'exemple des gens qui ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Pierre nous enseigne de suivre l'exemple du Christ dans la souffrance. Il dit, il a écrit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas d'étrangers d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Ça, c'est pas très agréable, ça, hein? « Comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. » Cela veut dire c'est ordinaire. Ça, c'est 1 Pierre 4, verset 12. Je peux multiplier des passages, mais je m'arrête ici. Nous devons rejeter la fausse doctrine prêchée par Austin et Meyer et publiée sur les sites comme topchrétien.com et enseignemoi.com parce qu'ils ignorent l'enseignement clair du Nouveau Testament. Ils ignorent. L'enseignement n'a rien à offrir aux frères et sœurs qui se trouvent dans la souffrance en Corée du Nord, par exemple, en Syrie, en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on va dire à nos frères et sœurs là-bas? Nous sommes désolés, mais si vous avez suffisamment de la foi, ça allait mieux. Ah bon? Quel encouragement pour nos frères et sœurs qui souffrent sous la persécution. On doit rejeter cette théologie de la prospérité aussi, parce que la théologie de la prospérité nous focalise sur cette vie et non pas sur la vie à venir. C'est déjà difficile de persévérer avec l'idée que notre meilleure vie arrivera, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu difficile. Jour après jour, on a des problèmes, on a la vie qui arrive jour après jour. Bon, on doit vivre maintenant. C'est difficile à garder cette idée. Non, mon espérance, c'est dans l'avenir, avec Jésus qui va venir et établir un nouveau monde. Mais imaginez que vous recevez l'enseignement semaine après semaine qui peut être résumé par le titre d'un livre écrit par Joel Osteen, Votre meilleure vie maintenant. Maintenant. C'est triste si votre meilleure vie est maintenant. Franchement. Je vous demande, bon, Jésus vous offre-t-il votre meilleure vie maintenant? Est-ce que ça, c'est le message de Jésus-Christ qui est venu pour sauver les âmes? Êtes-vous appelé à mettre tous vos efforts pour gagner votre meilleure vie maintenant? Jésus vous appelle-t-il à chercher la richesse, à obtenir à tout prix la bonne santé, à éviter à tout risque physique? Est-ce que ça, c'est le message de Jésus-Christ? Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Il parle de la nourriture, le breuvage et les vêtements. Vous seront donnés par-dessus. Pas des maisons, des avions, des entreprises. Jésus nous enseigne, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, les versets 24 à 25. Et Paul nous avertit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bon, ça pique un peu, hein? Parce que notre chair, nos cœurs veulent mieux que ça, n'est-ce pas? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6. Il ne dit pas que l'argent, c'est mauvais. D'accord? Dieu nous donne l'argent. Mais est-ce que ça, c'est notre désir principal? Je veux l'argent, je veux une maison, je veux un automobile, je veux des vêtements qui viennent de... Bon, je ne sais pas, pas au champ, hein, ça. Mais on veut toujours plus riche. Si ça, c'est notre amour... Si la prédication dit « Oui, Dieu veut tout cela pour vous et en plus parce que vous êtes les enfants de Dieu. » Et les enfants de Dieu ne peuvent pas être mal habillés. Est-ce que ça, c'est la vérité? Non. C'est pourquoi, Paul dit ailleurs, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment. Hein. Ces afflictions, pour moi, n'étaient pas « qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà, on arrive, merci. Ces afflictions, pour moi, c'est lourd. Hein. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Un enseignement, une personne qui est fixée sur ce monde maintenant, ça vient du monde, parce que ça, c'est la définition du monde dans la Bible. C'est le présent et que le présent. Dieu n'existe pas, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas ce qui arrive après. Je dois avoir tout maintenant parce qu'après, c'est fini. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ pour ses enfants comme nous. Troisièmement, on doit rejeter la théologie de la prospérité parce qu'elle annonce une mauvaise nouvelle. D'accord ? Elle annonce une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Selon la théologie de la prospérité, une vraie foi produira la bonne santé, la richesse, le bonheur et la réussite. Cela semble être très encourageant, mais où est l'espérance pour ceux qui souffrent physiquement? Pour ceux qui, spirituellement, ils sont à un niveau... ça peut être encourageant, mais qu'est-ce qui arrive si on souffre physiquement, spirituellement, même au niveau des sentiments? Si on n'a pas le bonheur, c'est dommage. Il faut croire, c'est un manque de foi. Et c'est tout. Où est l'espérance pour ceux qui ne reçoivent pas une réponse positive aux prières? Un couple hein, qui ne peut pas avoir un bébé. Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu? Est-ce que ça, c'est toujours pour eux un marque d'un manque de foi? Une femme qui est abandonnée par son mari infidèle, elle manque de foi, elle a prié, mais il est parti. Un homme qui perd son poste malgré toutes ses prières et son travail, c'est un problème de la foi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur des enfants qui sont pauvres et dans la pauvreté? Si on adopte la théologie de la prospérité, nous n'avons rien à leur offrir. En fait, le message de cette théologie écrase parce qu'elle met toujours l'accent sur notre faiblesse. Si vous êtes faible, vous avez un manque de foi. L'Évangile, par contre, met l'accent sur Jésus et nous appelle à lui. L'Évangile met l'accent sur le fait que le Fils de Dieu est venu pour souffrir afin qu'il puisse sauver les âmes de la punition que leur péché mérite. L'Évangile annonce le pardon des péchés pour tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus. L'Évangile annonce que le Père accepte tous ceux qui viennent à lui en Jésus, même ceux qui sont faibles, découragés, pauvres ou toujours dans la souffrance. L'Évangile est pour eux. Et pas que pour les riches américains qui sont déjà riches. Nous sommes déjà riches aux États-Unis. Même les plus pauvres sont plus riches que la plupart du monde. Ce genre de théologie doit venir des pays comme le mien, hein, c'est des pays qui sont riches. Ça ne peut pas commencer dans les pays où il y a beaucoup de souffrance. Il change l'Évangile. Il remplace l'Évangile avec une nouvelle loi qui est très agréable. Il faut toujours sourire. Il faut être beau. Il faut avoir la capacité d'acheter des maisons qui coûtent des millions de dollars. Sinon, vous n'avez pas eu la foi. Ça, c'est un enseignement qui écrase. Et en fait, ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quatrièmement, la théologie de la prospérité déplace Dieu du centre. C'est comme toutes les autres religions du monde. Dieu n'est plus au centre. Selon la théologie de la prospérité, l'homme est au centre. Dieu existe pour nous bénir. Dieu est transformé en une machine qui produit pour nous tous nos rêves. Priez d'une bonne manière et Dieu doit répondre. Donnez à Dieu et il doit nous donner encore plus. Et si la prédicatrice parle beaucoup des « il faut s'aimer l'argent », et bien sûr, il faut le s'aimer en l'envoyant moi. Bon, ça c'est une indication que cette personne ne prêche pas la parole de Dieu. Vivre justement et Dieu est obligé de nous bénir selon nos désirs. Dieu n'est rien qu'un distributeur de bénédictions pour ceux qui savent le manipuler par la foi. Mais le Dieu de la Bible n'est pas le serviteur de l'homme. L'univers existe pour la gloire de Dieu. On lit Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Si quelque chose existe, il existe pour Jésus-Christ, pour qu'il puisse avoir la gloire. Ce n'est pas l'inverse. Il est vrai que Jésus est venu pour servir, mais le but du salut qu'il a accompli, c'est la gloire de Dieu. On lit en Éphésiens chapitre 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de quoi ? De sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu nous aime. Jésus est venu parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous sauver. Il est d'un côté, oui, notre serviteur, mais de l'autre côté, il est le Seigneur. Et il est venu pour nous sauver afin qu'il puisse être glorifié. Ça, c'est le but. Et on le voit bien, fin de 1 Corinthiens, chapitre 15. Jésus, il va vaincre tout, il va donner tout au Père, et Dieu sera tout et en tout. C'est lui qui compte, et ce n'est pas nous. En fait, Dieu peut décider qu'un homme soit aveugle dès que sa naissance, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9, le verset 3. Laissez ces mots pénétrer nos cœurs. Dieu a décidé que cet homme soit aveugle pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que ses parents ont péché? Non. Parce que lui, il a péché? Non. Parce que les œuvres de Dieu doivent être manifestées en lui un jour dans la vie terrestre de Jésus-Christ. C'est incroyable ça. Votre théologie a-t-elle de la place pour un Dieu qui fait souffrir un homme pendant des années afin qu'il puisse se glorifier en lui? Avons-nous une théologie qui permet que Dieu peut décider que nous souffrons pour sa gloire? Mes frères et sœurs, sinon, nous n'avons pas une théologie biblique. Bon. Avant de conclure, je veux dire que je sais que l'enseignement de Joyce Meyer et les autres est très encourageant. D'accord? Je ne lis pas. J'avoue aussi que parfois, ils disent les choses qui sont vraies et utiles. Je ne dis pas. Mais je vous demande si le risque de se nourrir chez eux vaut la peine. Vous savez qu'il y a une autre exportation des États-Unis qui devient de plus en plus importante en France. C'est le fast-food. Hein? McDo, KFC, etc. Bon. Il est vrai que la nourriture chez eux goûte bon. Il est vrai aussi que la nourriture chez eux nous fait croître beaucoup. Hein? Mais qui parmi nous dirait que c'est de la bonne nourriture? Il faut aller trois fois par jour. Il faut manger. Qui parmi nous conseillerait les autres à y manger régulièrement? Le fait qu'on peut trouver de l'encouragement chez Meyer ou Austin ou topchrétien.com ou enseignement.com n'est pas une bonne raison d'y aller manger. Les dangers ont fait nous mettre en garde d'y aller, d'y manger. Mes frères et sœurs, faites attention. Ça, c'est mon désir pour nous, pour vous et pour moi. Je ne suis pas mieux que vous. Faites attention. Il y a des faux docteurs dans le monde qui vous menacent par leur enseignement non biblique. Maintenant, une question. Comment pouvez-vous échapper aux faux enseignements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Hein? Il faut fixer vos yeux sur la parole de sa grâce. Il faut fixer les yeux sur la parole de sa grâce. Et qui, selon Acte 20, sont chargés de s'occuper de l'Église de Dieu acquise par le sang de Jésus? C'est quelle personne? Ce sont les pasteurs et les anciens, les évêques, les responsables de l'Église. Qui ont la responsabilité de vous nourrir spirituellement, mes chers frères et sœurs? Ce sont vos pasteurs, vos anciens, vos enseignants. Ce sont les anciens ici. Selon la sagesse du Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 4, les pasteurs sont la source principale de l'enseignement d'une église locale. Je vous encourage donc d'écouter soigneusement à l'enseignement de vos pasteurs, parce qu'ils sont fidèles au Christ. Vous pouvez les suivre. Et dans la volonté de Dieu, ça c'est ce qu'il faut faire. Bon, je veux terminer parce que je veux être certain. J'ai parlé plutôt aux chrétiens ce matin. Et si vous êtes venu, vous n'êtes pas chrétien, vous pensez peut-être, Michael, hein? Tu es comme tous les Américains, vous êtes direct. Hein? D'accord, ça c'est vrai, je suis Américain, je ne peux pas changer. Mais j'ai parlé comme ça parce que je touche sur un sujet qui est très important. Parce que peut-être vous êtes venu, vous n'êtes pas chrétien, mais vous voulez savoir, c'est quoi le christianisme? Hein? C'est quoi le christianisme? Le christianisme n'est pas une religion où il faut travailler pour gagner. Le christianisme, c'est simplement un message qui dit, Dieu vous pardonnera de tous vos péchés si vous vous repentez de vos péchés et vous croyez en Jésus-Christ. Qui est mort et qui est ressuscité et qui va revenir pour sauver et pour juger. Nous sommes venus ce matin pas pour gagner quelque chose, pas pour mériter quelque chose avec Dieu. Nous sommes venus avec les cœurs qui sont remplis de joie, qui sont remplis de gratitude pour ce que Dieu a fait pour nous, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Et c'est à cause de ça qu'il faut parler directement des enseignements qui déforment et qui tordent la vérité. Parce que c'est quoi qui est l'enjeu? C'est l'éternité. Chaque personne dans cette salle va passer l'éternité quelque part. Soit avec Dieu dans le paradis, soit éloigné de Dieu dans l'enfer. Ça, c'est grave. On ne peut pas changer le message de Jésus-Christ. Soyez fixés sur sa parole. Prions ensemble. Notre Père, nous prions pour ton aide. Nous ne voulons pas être trompés. Mais surtout, nous prions que tu sois glorifié. Nous ne voulons pas changer le christianisme pour que nous puissions au centre. C'est toi, Jésus-Christ, qui es au centre. C'est toi qui es digne de tout honneur, de toute louange, de toute adoration. Et nous voulons que tu le reçoives.